Du côté Sirot Khalekhraf Bet, Sicha sur Lag BaOmer. Alors il y a deux raisons pour lesquelles on se réjouit à Lag BaOmer. La première raison, c'est parce que c'est le jour où les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir après une épidémie. 24 000 élèves. C'est le jour où ils ont arrêté de mourir. La deuxième raison, c'est parce que c'est la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai et c'est lui qui a demandé à ce qu'on se réjouisse le jour de sa Hiloula. Alors on sait que rien n'est au hasard dans la Torah et si on a ces deux raisons qui nous amène à nous réjouir ce même jour, il doit forcément y avoir un lien entre ces deux raisons. Alors on sait que parmi les cinq élèves qui restaient à Rabbi Akiva après cette épidémie, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faisait partie de ces cinq-là. Mais quand on réfléchit bien, on voit que justement, le fait que lui y reste et qu'il soit un rescapé de cette épidémie, c'est quelque part le contraire de sa Hiloula, qui est le jour où il est parti de ce monde. Donc même si on voit un lien, le lien a priori, il est contraire. Il est contradictoire. Donc, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? La première chose, c'est qu'on sait qu'un tzaddik, un juste, quand c'est le jour de sa Hiloula, c'est le jour où toutes ses actions, toute son œuvre, elle s'élève à un niveau sans commune mesure. Il atteint une certaine perfection quelque part. Et donc, c'est ça sa véritable vie. C'est toute son œuvre de toute sa vie. Donc, on peut faire un lien aussi, même si c'est le jour où il est parti de ce monde, on peut aussi faire un lien avec le fait qu'il soit resté. Et on peut même aller plus loin, c'est que comme lui, sa manière d'être à Rabbi Shimon, elle était l'antithèse du problème qui a causé la mort des 24 000 autres élèves de Rabbi Akiva, lui, toute son œuvre, le symbole qui va culminer au point au jour du départ de ce monde, c'est le fait que lui n'a pas été comme les autres, lui n'est pas mort. Et donc c'est pour ça qu'il est parti de ce monde justement ce jour de Lag BaOmer. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait de particulier chez lui, en plus des autres élèves de Rabbi Akiva, pour que lui, il parte de ce monde le jour de Lag BaOmer et pas les autres? Alors, pour bien comprendre ça, il faut déjà expliquer c'était quoi le problème des élèves de Rabbi Akiva. On dit ils sont morts parce qu'ils ne se sont pas témoignés du respect l'un envers l'autre. Alors, on sait que Rabbi Akiva, c'est celui qui a érigé en tant qu'enseignement phare le fait d'aimer son prochain comme soi-même. Et on sait qu'un élève, il est forcément attaché aux enseignements de son maître et à la manière de penser l'idéologie de son maître. Si Rabbi Akiva, lui, toute son essence, tout son enseignement principal, c'est le fait d'aimer le prochain, on ne peut pas dire que ses élèves, ils ne se respectaient pas. En vérité, ses élèves, ils étaient très profonds. Et chaque chose, ils le faisaient de manière entière, de manière investie à 100%. Sauf que chacun avait une manière de servir Dieu différente. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui va mettre beaucoup l'accent sur l'amour de Dieu et quelqu'un qui met l'accent sur la crainte de Dieu, les deux, ils vont arriver à certains points, à certaines situations où ils vont pas être d'accord, ils vont s'opposer. Mais les deux ont envie de bien faire, les deux ont envie de faire la volonté de Dieu. Mais ici, comme c'était des gens qui, justement, ils aimaient leur prochain, donc ils n'avaient pas envie de dire, moi, je fais mon service de Dieu dans mon coin, ça me concerne, et les autres, ils font ce qu'ils veulent. Moi, non, je vais aussi aller partager mon point de vue et ma manière de servir Dieu avec les autres. Et quand ils voyaient que les autres étaient en opposition avec eux, alors c'est quelque chose qu'ils avaient du mal à accepter, qu'ils avaient du mal à supporter. Et donc, ils ne leur témoignaient pas le respect qui était dû à un élève de Rabbi Akiva. Ça ne veut pas dire qu'il se manquait de respect, mais pour lui, cet homme-là, qui ne suivait pas sa manière de voir les choses, il n'avait pas atteint une perfection, la même perfection que lui, et donc il ne pouvait pas lui témoigner le respect qui était dû à un élève de ce rang-là. Et donc il y avait un manque dans ce respect, dans cet honneur qui était dû aux élèves les uns envers les autres. Et bien sûr, comme c'était des élèves de Rabbi Akiva, cette manière d'être, il l'a tiré aussi en partie de leur maître. Et quand on regarde un petit peu la personnalité de Rabbi Akiva, on voit un petit peu de ça. Ça veut dire que quand les Romains ils ont tué Rabbi Akiva, juste avant de le tuer, Rabbi Akiva il avait dit à ses élèves, il a dit, toute ma vie j'ai attendu ce moment où je vais pouvoir sanctifier le nom de Dieu. Ça veut dire que Rabbi Akiva il était toute sa vie dans un état d'esprit où il devait donner sa vie pour Dieu et se donner à 100% dans un mouvement d'abnégation totale. Et donc ses élèves, ils avaient récupérer un petit peu aussi de cet état d'esprit. Et donc quand il se donnait dans quelque chose, quand il s'investissait dans quelque chose, il le faisait à 100% et ça pénétrait toutes les fibres de leur être. Donc quand ils avaient une manière de servir Dieu, une manière de voir les choses, ça les imprégnait tellement qu'ils ne pouvaient pas supporter le fait que quelqu'un voit les choses différemment. Eux, ils étaient tellement investis à 100% dans ce qu'ils faisaient que quelque part, ils oubliaient d'accepter aussi un petit peu la manière de voir les choses des autres. Et cette manière de se donner à Dieu à 100%, c'est sûr que c'est bien, il faut se donner à Dieu, il faut se complètement s'offrir à Dieu et s'investir et se être prêt à se sacrifier pour Dieu entièrement. Mais il y a deux manières de le faire. Il y a une manière qui est constructive, une manière qui est pas du tout positive. Quand on se consacre à Dieu, quand on s'élève, quand on se consacre à 100%, on se sacrifie pour Dieu, on peut le faire d'une manière d'élévation. Ça veut dire qu'on va s'élever spirituellement. Sauf que toute cette élévation, elle a pour but, après, de prendre des forces spirituelles et de les investir dans ce monde-là matériel pour pénétrer la matérialité de toute cette spiritualité qu'on a récupérée. De faire en sorte de faire que le matériel va devenir un peu plus spirituel, va se raffiner. Si on reste que dans la première étape qui est le spirituel, alors on est passé complètement à côté du but de la création. Et c'est ça le problème chez eux, c'est que oui, ils ont eu cet état d'esprit de s'investir à 100%, de donner leur vie pour Dieu, mais c'était d'une manière qui n'était pas constructive. Ça veut dire que c'était pas de manière construite, c'était pas structuré. C'était un élan de spiritualité sans jamais redescendre sur terre. Et ça, c'est quelque chose qui manque énormément, alors que Rabbi Akiva, lui, n'avait pas ce défaut-là. Dans son élévation, il avait tout de suite les pieds sur terre pour pouvoir amener cette spiritualité dans ce monde. Et c'est pour ça qu'on nous dit que quand Rabbi Akiva, il a pénétré toutes les parties de la Torah, tous les secrets de la Torah, alors il l'a fait de manière paisible, il est rentré de manière paisible et il est sorti de manière paisible. Alors que les autres grands de la Torah qui ont essayé de pénétrer tous les secrets de la Torah, chacun en est ressorti avec un défaut. On ne va pas rentrer dans les détails ici, mais Rabbi Akiva, lui, il a pu ressortir en paix parce que son intention à la base, elle était bonne, elle était en paix. Ça veut dire que comme il avait déjà à la base l'idée de revenir sur terre, c'est-à-dire de garder les pieds sur terre, de prendre cette spiritualité, de l'insuffler dans le monde matériel et de pas s'envoler dans des degrés spirituels sans jamais revenir, alors Rabbi Akiva, lui, il a pu garder un petit peu cette attache avec le monde et son travail, il a été constructif. Maintenant, on peut comprendre un petit peu pourquoi le jour de l'Agba Omer, ça tombe le 18 Iyar. 18 en hébreu, c'est Chai, c'est la vie. De la même manière que pour le 18 Elul, qui est le jour de la naissance du Baal Shem Tov et de la Noura Zaken, on dit c'est le jour qui donne de la vitalité à tout le mois d'Elul. De la même manière, le 18 Iyar, l'Agba Omer, c'est le jour qui donne de la vitalité à tout le mois de Iyar. C'est quoi le mois de Iyar? On sait que à partir de Pessah, on commence à recompter les mois. Nissan, c'est le premier mois. Iyar, c'est le deuxième mois. Le premier mois Nissan, c'est le mois du Chesed, de la bonté. Iyar, c'est le mois de la sévérité. Ça veut dire quoi? La bonté, c'est un mouvement qui vient du haut vers le bas. C'est Dieu qui donne sans limite aux hommes. Et la sévérité, entre guillemets, la rigueur, c'est lorsqu'il y a le flux de l'homme, le service de Dieu de l'homme qui va s'élever vers Dieu. Et donc, comme on a dit, cet élan de s'élever vers Dieu sans une redescente, ça peut amener à quelque chose de négatif. Et on a ce jour de l'Agba Omer qui vient faire en sorte que tout ce mois va être une élévation qui va justement avoir un effet positif et une descente vers le bas. En donnant de la vie, en donnant de la vie dans ce monde-là pendant tout ce mois-là. Et cette manière d'être, on l'a retrouvée spécialement chez Rabbi Shimon Bar Yochai. On sait qu'il est resté 13 ans dans une grotte. Et à la sortie de cette grotte, alors pendant ces 13 ans, il a étudié la Torah. Il a approfondi énormément de secrets de la Torah. Et on nous dit même qu'il y a certaines mitzvot qu'il n'a pas pu accomplir. Il les a accomplies que spirituellement. Ça veut dire que pendant ces 13 ans, c'était une élévation. C'était cette période-là d'élévation vers le haut. Mais ça ne l'a pas empêché de redescendre et de garder les pieds sur terre après ces 13 ans où il est resté dans la grotte. Ça, on le voit parce que son fils, lui, n'a pas eu cette même qualité. Et son fils, avec son regard, il arrivait à détruire un certain nombre de choses. Tout ce que son fils détruisait, lui, il venait réparer. Et il a même demandé, qu'est-ce que je peux améliorer? Dans quoi je peux aider? Qu'est-ce que je peux réparer? Donc il essayait justement d'amener du positif dans le monde, de faire en sorte que cette élévation spirituelle amène un but et une élévation matérielle par la suite, que ça puisse amener un raffinement de la matérialité. Et ça, on le voit aussi même dans son étude de la Torah qui était deux fois plus profonde. On nous dit que là où il pouvait donner 12 réponses avant la grotte, après être sorti de la grotte, il était capable de donner 24 réponses.